Au royaume des insectes, les apparences sont parfois trompeuses. Regardez ces gracieuses silhouettes de 2 à 10 cm, formant au-dessus de l'eau un bal aérien coloré et discret. On les croirait sculptées dans du cristal tant leurs corps allongés et leurs ailes membraneuses sont fines et semblent fragiles. À tel point qu'elles ont inspiré nombre de créateurs, dont le maître verrier et bijoutier René Lalique avec sa femme Libellule, une sorte de broche devenue un classique de l'art nouveau. Même leurs gros yeux composés, loin de nous répugner, nous charmeraient presque. Pourtant, est-on bien sûr de savoir qui elles sont ? D'abord, on a tendance à mettre dans le même sac estampillé libellule tout et n'importe qui. En fait, il faut distinguer les libellules vraies, aussi appelées anisoptères, et les demoiselles, les zygoptères. Toutes deux font partie de l'ordre des odonates, terme donc plus adapté pour notre sac fourre-tout. Mais avant de vous donner les clés de leur distinction, sachez que le terme odonate n'est pas l'invention d'un poète. Non. Odonata est un mot latin qui veut dire « pourvu de dents ». Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Les odonates, ces charmants insectes colorés, ont de puissantes mandibules armées de dents très pointues avec lesquelles ils déchiquettent leurs innombrables proies attrapées au vol à l'aide de leurs deux pattes avant. Ce sont de terribles carnassiers qui peuvent manger une centaine d'insectes par jour et dont la sélection se ferait sur simples critères de taille. Autrement dit, elles mangeraient tout ce qui bouge à condition de pouvoir l'attraper. Il se pourrait d'ailleurs que ce détail leur ait valu d'être nommé par les anglophones « dragonfly », dragon volant ou mouche dragon. On raconte aussi que ce rapprochement avec les dragons viendrait de l'époque où les chrétiens luttaient contre le paganisme et diabolisaient cet insecte pour être lié à une déesse, Freya. Mais on dit aussi que ça viendrait du fait qu'on prenait son abdomen pour un dard. Alors va savoir. Et puisqu'on en est à décortiquer les noms, celui de libellule pourrait venir de libellus, petit livre, car leurs ailes, deux paires identiques, s'ouvrent et se ferment, comme les ailes des demoiselles quand elles sont au repos. Comme celles des demoiselles, mais pas comme celles des libellules vraies, qui sont différentes selon qu'elles sont antérieures ou postérieures, et qui restent ouvertes quand l'insecte est à l'arrêt. Voici d'autres moyens de les distinguer. Les demoiselles ou zygoptères sont de plus petite taille, 3 à 4 cm, et d'une grande finesse. Leurs yeux ne se touchent pas. Ils forment deux grosses boules sur les côtés de leur tête. Ici, au beau jour, vous pourrez sans doute observer quelques-unes de leurs représentantes. Des agrillons élégants, par exemple, qui comptent parmi les demoiselles les plus communes et qui se plaisent aussi bien au bord des rivières que des mares ou des lacs. Sombres, elles ont l'extrémité de l'abdomen bleu ainsi que le thorax et que quelques points sur la tête. Vous croiserez aussi peut-être des Calopteryx occitans, dont les mâles ont le corps d'un beau bleu métallique de plus en plus sombre à mesure qu'on regarde au bout de leurs ailes. Quant aux femelles, leur corps est d'un vert élégant, métallique également. Pour avoir le droit d'être appelée libellule vraie, anisoptère, il faut être plus gros que ne le sont les demoiselles. Certaines espèces de libellules atteignent 10 cm. Leurs yeux se touchent et couvrent une plus grande partie de la tête. À Toulouse, on peut rencontrer des anax empereurs, qui comptent parmi les plus grosses des libellules. Elles pèsent plus d'un gramme. Avec leur abdomen bleu parcouru d'une ligne dorsale noire, leur thorax vert et leurs yeux bleus ou verts. Bon ça, ce sont les mâles. Les femelles, elles, ont un abdomen vert, toujours avec une bande noire. Vous entendez ? Le vrombissement que produit le frottement de l'air au contact de leurs ailes ? Leur vol est incroyablement rapide. Les libellules peuvent atteindre jusqu'à 90 km/h, quand les abeilles dépassent à peine 30 km/h. Ce sont les plus rapides des insectes volants. Mais les odonates ont besoin de chaleur pour voler. Tant que la température n'est pas adéquate, elles restent posées. Les ailes des libellules sont extrêmement complexes. Elles peuvent bouger de manière indépendante et ont des capacités de torsion qui leur donnent beaucoup de possibilités, comme aller en vol arrière, changer rapidement de direction, faire des piquets ou du surplace, à tel point qu'elles auraient inspiré les ingénieurs pour la fabrication des hélicoptères. Les ailes des demoiselles, plus petites et plus simples, ne leur permettent pas une telle vitesse ni la marche arrière, même si leur vol est quand même remarquable. Ce qui est remarquable aussi, c'est l'histoire des odonates. Durant le Carbonifère, il y a 340 millions d'années, leurs ancêtres, les protodonates, étaient avec les éphémères les premiers invertébrés volants, mais surtout, les plus grands qui aient jamais vécu. Si pas mal avaient la petite taille de celles que nous connaissons, d'autres mesuraient jusqu'à 1 mètre. Demoiselles et libellules sont des insectes, et comme tous les insectes, elles se métamorphosent au cours de leur vie. Les êtres délicats de toutes les couleurs correspondent à leur stade adulte, celui durant lequel elles pourront se reproduire. Mais avant ça, elles ont été des larves. Et elles sont beaucoup moins séduisantes. Brun foncé, avec le corps plus ou moins allongé selon les espèces. 6 pattes plus ou moins longues, 2 gros yeux et des mâchoires impressionnantes. Leurs mandibules sont situées au bout d'un genre de tube qu'elles actionnent comme un caméléon envoie sa langue pour capturer leur proie et qu'on appelle le masque parce que quand il est plié, il dissimule les pièces buccales. En général, les larves sont toutes petites, mais certaines atteignent jusqu'à 7 cm. Il arrive que celles de certaines espèces mettent jusqu'à 5 ans pour se développer, quand une fois adultes, elles ne vivent que quelques jours à quelques semaines. Le développement larvaire est influencé par différents facteurs, comme les conditions climatiques, mais aussi la date de ponte. Pour vous donner une idée, si la ponte de l'anax empereur a eu lieu en avril-mai, ces larves, les plus grosses vivant par chez nous, peuvent mettre entre 3 à 4 mois avant d'émerger au mois d'août. Si la ponte a lieu en fin d'été, les larves émergeront au printemps suivant. Parce que si les adultes, les imagos disent les scientifiques, vivent sur terre et batifolent dans les airs, leurs larves sont aquatiques. Celles des demoiselles ont des branchies au bout de leur abdomen et celles des libellules ont un tout autre système. Leurs branchies sont internes et localisées dans le rectum. De cette particularité, elles font une force car après avoir aspiré l'eau par l'anus, elles peuvent l'éjecter d'un coup et ainsi se déplacer rapidement en cas de souci. Une sorte de turbo, quoi. Et puis elles ont une autre capacité bien utile, celle de mettre en pause leur fonction vitale pour vivre sans eau en attendant que la pluie vienne. On appelle cela la diapause. Et avec les sécheresses que nous vivons, c'est pratique. Cette résistance au manque d'eau est d'ailleurs un facteur clé de la sélection naturelle à l'œuvre actuellement. À l'état larvaire, nos odonates vivent de 9 à 16 mues selon les espèces, avant de passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Dès que la larve est prête, elle monte sur une branche ou sur un rocher où elle s'immobilise. Et là, elle rejoue alien. L'imago sort progressivement de sa vieille enveloppe, qu'on appelle l'exuvie, par un trou situé sur le dessus du thorax. Ensuite, elle déploie ses ailes pour les faire sécher. L'émergence dure 1 à 2 heures tout au plus. Cela dépend des espèces et des conditions météo. Notre odonate est alors très vulnérable, car son corps est mou et sans protection. Une fois sec, l'insecte peut quitter les environs du point d'eau. Son corps n'est pas encore très coloré et ses ailes brillent de l'éclat de la jeunesse. Il peut désormais partir à l'aventure, vivre son adolescence faite de chasse et de chasse. Il faut bien prendre des forces. Les libellules vraies peuvent s'éloigner à plusieurs kilomètres des zones d'eau qu'elles ne rechercheront qu'une fois prêtes à se reproduire. Les mâles attendront alors les femelles au bord de l'eau où ils s'accoupleront en formant des petits cœurs posés au bout des herbes aquatiques, sur les rochers ou s'élevant carrément dans les airs. Romantique ces petits cœurs copulatoires, non ? Pourtant, encore une fois, les apparences semblent trompeuses. Car ça n'est pas toujours un grand moment de tendresse. Si vous apercevez là un calopteryx hémorroïdal en train de faire du surplace en exhibant devant une femelle son abdomen brun-violet métallique avec une tache rose-rouge à son extrémité, d'où son nom, vous l'aurez compris, n'allez pas généraliser. Seuls les calopteryx s'encombrent de la séduction. Les autres sont à l'affût, en vol ou à l'arrêt, défendant brutalement leur territoire de leurs concurrents potentiels qu'ils n'hésitent pas à bousculer et s'accrochant à la femelle dès qu'elle passe sans même lui demander son avis. Mais les femelles n'ont pas dit leur dernier mot. Une étude menée à Zurich par le biologiste Hassim Khalifa a montré que certaines se laissaient brusquement tomber au sol, simulant le crash, la mort, pour que les mâles les laissent tranquilles. Et il semblerait que la technique marche plutôt bien. D'autres femelles essaient de s'en défaire à grand renfort de looping, jusqu'à ce qu'ils lâchent. Pas si romantique, finalement. Si elle consent, alors le cœur copulatoire peut se former. Et c'est unique chez les insectes. Le mâle transfère son sperme chez la femelle, lequel sera simplement stocké, puisqu'elle ne féconde les œufs qu'au moment de la ponte. Or, certains mâles ne lâchent la grappe des femelles qu'une fois assurés qu'elles pondent bien leurs propres œufs. Car si entre-temps un autre accouplement a lieu, leur sperme s'en trouverait évacué. Selon les espèces, la ponte aura lieu dans les tissus des végétaux aquatiques, dans l'eau, sur du bois flottant. Ce qui a un impact sur la forme des œufs, ronds, longs, d'où sortiront les larves. Ainsi va leur vie, jusqu'à ce que ces odonates arborent des couleurs affadies et déploient des ailes abîmées avant de faire place aux jeunes. Environ 6000 espèces d'odonates sont connues dans le monde. 98 en France, 39 à Toulouse. Dans les années 60, elles ont eu la vie dure du fait de la destruction massive de leurs habitats et principalement des zones humides. Aujourd'hui, le principal enjeu est celui du réchauffement climatique. Avec l'assèchement des milieux, les espèces qui vivent dans des zones peu profondes, comme les tourbières, sont menacées. Le changement climatique fait migrer de nouvelles espèces depuis le sud. Le rouge violacé Trithemis annelée, par exemple, qu'on peut rencontrer assez facilement à Toulouse, est une espèce afrotropicale qui n'est présente en France continentale que depuis 1994. À Toulouse, les canaux, le fleuve et les mares des jardins publics ou des particuliers constituent divers lieux de ponte possibles. Le problème, ce sont les poissons des bassins, grands prédateurs des larves. Si vous faites une mare, n'y mettez pas de poissons, laissez faire. Il paraît que la nature a horreur du vide. Vous auriez alors plus de chances de voir un jour s'y poser un de ces singuliers insectes, gracieux et sophistiqués que sont les odonates.